Chapitre 10. La plupart de ces messieurs se préparaient à la chasse. Dans ces moments de loisirs, mon père faisait ses cartouches. Il m'emmenait à Courance et ensemble nous parcourions les vignes, les landes, les bois de sapins pour nous rendre compte de l'état du gibier. La chasse fut ouverte le premier dimanche de septembre. Mon père partit pour la campagne à 4 heures du matin avec M. Clérambourg. Vers 10 heures, il était de retour pour recevoir les clients, nombreux le dimanche. Du coffre de la voiture, on tira 3 lièvres, 7 ou 8 perdreaux, une demi-douzaine de cailles. Clérambourg avait prélevé sa part. Petite maman dit « Qu'allons-nous faire de tout cela ?» Courant s'est favorisé cette année. Il paraît qu'il n'y a pas de gibier dans le département. Mon père n'avait pas chassé pendant son année malheureuse. Le gibier d'alentour avait afflué sur la propriété. La chasse déridait un peu M. Clérambourg. Il dit un soir « Mon cher Nadeau, vous pouvez vous flatter d'être privilégié. Il n'y a ni poils ni plumes sur le marché à 10 lieues à la ronde. Je vous citerai l'exemple d'une maison où l'on est 15 à table pour le moins chaque jour quand ce n'est pas 20 et l'on n'a pas vu jusqu'ici l'aile d'un perdreau. » « Ah !» fit mon père. Ce propos n'avait l'air de rien, mais mon père en fut agité. Il reprit plus que jamais son air d'attendre un paquet de paris. Il était soucieux, faisait claquer ses doigts, fronçait les sourcils, tirait sa barbe. Un matin, il fit atteler inopinément et porta son fusil à la voiture. « Où vas-tu ? » lui dit sa femme. « À Courance. »« Tu n'as pas prévenu Clérambourg ? » « Je n'ai pas besoin de Clérambourg. Ne suis-je pas assez grand pour chasser seul ?»« Qu'est-ce que cela signifie ? Tu ne chasses jamais seul. Emmène-nous au moins. »« Venez donc, nous demanderons à déjeuner aux grands-parents. » Arrivé à Courance, mon père commanda au garde de l'accompagner et il lui confia un de ses fusils, fait extraordinaire. Le garde était bon tireur. On entendit une fusillade nourrie jusqu'à midi. Elle cessa. Nous nous mîmes à table, mais point de chasseurs. Grand-mère commençait à s'inquiéter. « À quoi pense donc votre mari ? À cette heure-ci, il doit avoir sa provision de gibier et au-delà. D'autant plus qu'il n'a pas à partager aujourd'hui avec le Clérambourg, qui se laisse facilement attribuer la meilleure part. Ils auront mangé un morceau de pain dans une ferme. » En effet, la fusillade, éteinte une demi-heure à peine, reprit de plus belle. « Allons, disait grand-mère à petite maman, vous donnez un dîner, avouez-le. Je vous affirme que je n'en sais pas plus que vous. » Pendant la longue journée, grand-mère ne put se retenir de parler, au moins incidemment, des visites qu'elle avait faites chez les Plancoulaines. Ils ont de la jeunesse cette année, c'est extrêmement gai. « Ah, par exemple, vous n'y êtes pas remplacée comme musicienne. »« Oh ! Il n'y a pas de haut. Ces jeunes femmes sont charmantes, mais elles jouent du piano comme des automates. Soyez assurés qu'ils savent bien qu'il leur manque. »« Vous voulez me flatter. Qui donc accompagne Rosine Cerbère ?»« C'est Monsieur Théodore lui-même. »« Lui, je ne l'ai jamais entendu. On dit qu'il joue comme un ange. » On en pleure. Vraiment. Il y avait un silence. Une mouche bourdonnait dans la pénombre. On voyait le beau soleil de la chaude journée par l'entrebâillement des persiennes. Grand-mère leva ses lunettes sur son front. C'est donc une brouille éternelle. Mon mari prend la moindre allusion à ce sujet pour une offense. Nous sommes là-dessus muets comme une paire de chenets. Grand-mère confirma que là-bas, on avait été mécontents de Courtois. Le jour avançait. La fusillade allait toujours. On la suivait aisément à l'oreille. Les chasseurs avaient dû faire le tour de la propriété, avec une pointe probablement sur les terres du marquis de Liancourt. Enfin, ils arrivèrent, en nage, crottés jusqu'aux genoux, puant la poudre et le fauve, chargés comme des baudets. 32 pièces. « Dans un état pareil, dit grand-mère, vous dînez avec nous ?»« Non, non, en un tour de main, je vais changer de linge et nous partons. »« Il y a de quoi attraper la mort. »« Voulez-vous, je vous prie, commander qu'on attelle ?»« « Ah, Riquet, mon petit, j'ai un service à te demander. Tu as une plume, de l'encre, du papier ? Allons, cherche, apporte. Tout beau, tout beau. » Il souriait, il plaisantait, il me parlait comme à son chien. J'allais chercher ce qu'il désirait et le lui porter. Il me pria aussitôt d'écrire sur un morceau de papier « Gibier de Courance, envoi de Riquet, Henri Nadeau. » « Ça suffit, dit-il. » Puis il posa un doigt sur ses lèvres et dit « Motus. » Au moment de monter en voiture, sa femme lui dit « Je suppose que tu as de quoi être généreux. Combien de pièces as-tu laissé à ta belle-mère ?»« Combien de pièces ? Mais je ne sais pas. Demande au garde. » Elle alla demander au garde. Il achevait de ficeler une bourriche énorme. Monsieur ne lui avait pas commandé de garder quoi que ce soit. Elle fut interdite devant ce panier soigneusement fait, comme pour un envoi, et bourré de 32 pièces de gibier. Nous montâmes en voiture. Nous descendîmes au trot une grande allée d'ormes conduisant à la grille. Après, il y avait une côte. La jument allant au pas, petite maman se tourna vers son mari. « Ah, ça, tu vas m'expliquer, j'espère !» Il s'attendait à la question. Cependant, il pâlit. Il s'écoula un temps infinitésimal. Son cœur devait battre violemment. Il espérait pouvoir répondre d'un mot. Et, en effet, sa femme précisa son interrogation. « Où envoies-tu cette bourriche ?» Il dit « Là-bas, parbleu !» Il ajouta aussitôt « On ne peut tout de même pas passer pour des goujats !» Il regarda sa femme brièvement entre deux clins d'œil. Comme elle se taisait, il essaya d'atténuer encore et dit « C'est le petit qui fait l'envoi !» Elle était aussi pâle que lui. Elle ne le regarda pas. Son regard n'exprimait rien. Il était fixé sur la tête du cheval. Ils ne dirent mot jusqu'à la maison.